Bonjour à tous, il est 15h19 et vous êtes sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de la pièce « Mes parents » de Mohamed El-Khatib. Plus précisément, nos invités Selena et Chloé vont donner leurs avis sur ce qu'elles ont aimé, puis Ninon nous fera part d'une anecdote. Valentine, vous animerez le débat et quant à nous, chers auditeurs, nous nous retrouverons bientôt pour la conclusion en fin d'émission. Je vous laisse la parole, Valentine.
Bonjour Morgane. Comme dit précédemment, nous allons parler de la pièce de Mohamed El-Khatib, « Mes parents », écrite en 2020. C'est une pièce de théâtre documentaire jouée par des jeunes comédiens du Théâtre National de Bretagne. On abordera donc les thèmes suivants, le mariage, l'enfance, les lubies, les souvenirs et l'amour. Je laisse la parole à Chloé et Selena qui vont répondre à la problématique suivante. Quels sont les moments que vous avez aimés et ceux que vous n'avez pas appréciés durant cette pièce ? Chloé, je vous laisse la parole.
Bonjour Valentine, bonjour à tous. J'ai beaucoup aimé le moment où le garçon imite sa mère qui fait sa Zumba devant lui. J'ai trouvé ce moment très comique et le rythme avec la musique a fait un super comique de situation. De plus, je ne m'y attendais pas et cela a redoublé mon amusement.
À vous, Selena.
Je suis d'accord avec vous, Chloé. Un des moments que j'ai particulièrement apprécié dans la pièce est lorsqu'un acteur partage avec le public ses souvenirs d'enfance avec ses parents. Je trouve que ça crée un lien entre l'artiste et le spectateur. Un autre montre même des photos de mariage de ses parents. Ce que j'ai adoré dans cette pièce de théâtre, c'est l'aspect humoristique. Il y a une scène où tous les adolescents essaient d'attirer l'attention de leur père. Certains jouent du piano, d'autres chantent. Mais le moment qui m'a particulièrement marqué, c'est quand un jeune garçon répète le mot « papa » à plusieurs reprises pendant quelques minutes. Habituellement, une scène comme celle-ci pourrait devenir très agaçante, même gênante. Mais dans cette pièce, c'était tellement bien fait que ça ne l'était pas du tout. C'était un moment qui devait être triste, mais le metteur en scène a su le rendre drôle.
Et vous, Chloé, qu'en pensez-vous ?
Personnellement, je n'ai pas aimé ce moment. J'ai trouvé cela un peu ennuyeux et long, surtout parce qu'il durait 3 minutes. Cela créait un silence dans la pièce et ça gâchait presque le reste de la pièce. De plus, je n'ai pas apprécié la répétition. J'ai trouvé que cela n'apportait rien de nouveau à l'ensemble de la pièce. Je n'ai pas trouvé cela très drôle.
Merci les filles. On conclut le débat. Je redonne la parole à Morgane.
Alors tout de suite, on va faire une petite pause musicale. On va écouter Pile Plate de Bonkers.
You know, drink a little drink just to get away from all this shit. You start smoking weed to get away, to forget, to get high, to get to relax.
Donc à présent, Ninon va nous raconter une anecdote de son enfance. À vous, Ninon.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter le plus gros mensonge de mon enfance. Un soir, avec ma sœur, on devait avoir 5 et 7 ans. On était dans notre maison de campagne et on s'est chamaillé. J'ai claqué la porte, mais c'était pas n'importe quelle porte. Vous voyez les vieilles portes avec plein de petits carreaux ?
Oui.
C'était... Dans mon élan de colère, en claquant la porte, le carreau du bas est tombé. Avec ma sœur, on a donc inventé un mensonge. Quand notre père est entré, on lui a dit que le chat était descendu des escaliers en courant et qu'il avait sauté à travers le carreau en le confondant avec la chatière. Notre père nous a cru et il y a seulement 2 ans, on a avoué la vérité autour d'un repas de famille.
Eh bien, merci à vous Ninon d'avoir partagé avec nous ce souvenir d'enfance, c'était très amusant. Donc on va conclure, notre émission touche malheureusement déjà à sa fin, il est temps pour nous de se dire au revoir. Vous avez écouté Selena, Valentine, Ninon et Chloé sur Radio Campus Paris. Un grand merci à Camille et Eleanor, nos réalisatrices. Merci de votre attention, cher public, et à la prochaine écoute.
Bonjour, il est 17h, nous sommes sur Radio Campus dans l'émission Les sujets d'aujourd'hui. À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris. Le thème d'aujourd'hui est les tabous dans la famille, en lien avec le spectacle Mes parents que nous avons regardé avec notre classe de seconde 2. Ça se déroulera en 5 chroniques avec Diane et les relations toxiques, Sacha sur l'homosexualité, Valentine dans la communication avec les parents, Aiden avec le sujet sensible de l'inceste avec des agressions et enfin Shana avec les complexes. Si certains de ces sujets que nous allons évoquer vous mettent mal à l'aise, n'hésitez pas à baisser le volume le temps de la chronique. On commence avec Diane. Coucou Diane, tu vas nous parler des relations toxiques.
Bonjour. Oui alors, la toxicité entre amis commence par une relation que l'on pense saine, mais qui finalement ne nous fait pas de bien et qui n'est pas bonne pour nous. Par exemple, dans le passé, j'avais une amie avec qui j'ai passé de super bons moments. On était inséparables. Mais un jour, cette amie a complètement changé et m'a en quelque sorte montré son vrai visage. Elle a commencé à me juger, à me rabaisser, à m'interdire de me faire d'autres amis qu'elle, et cela sans que je m'en rende véritablement compte. En résumé, elle était jalouse. Quand ce genre de situation nous arrive, parfois on est tellement omnibulé par cette personne qu'on refuse de voir ses mauvais côtés. Devoir parler de cette amie à ses parents alors qu'il la pense mignonne et gentille peut également poser problème. Dire à ses parents que sa meilleure amie nous fait subir des choses qui ne sont pas normales ou même qui nous font pleurer peut être un sujet difficile à aborder.
Tu penses pas que si tu invites ta pote, tes parents se rendront pas compte que cette amie est toxique ?
Quand on présente nos amis à nos parents, ils peuvent parfois changer radicalement de comportement, en devenant plus gentils et plus polis. Cette réaction peut nous rendre encore plus hésitants à leur en parler, de peur qu'ils pensent que nous exagérons ou que nous nous focalisons trop sur certains détails de notre relation avec eux.
Certaines relations sont parfois dures à avouer car nos parents ne sont pas forcément prêts à l'entendre ou ne l'accepteront pas. C'est notamment et malheureusement beaucoup le cas avec les relations amoureuses homosexuelles. Sacha a décidé de nous parler de ce sujet.
Bonjour, effectivement Capucine, l'homosexualité c'est un des tabous les plus courants, notamment à cause de l'homophobie qui règne dans certaines familles. En 2022, l'association SOS Homophobie a recensé 1200 cas d'homophobie et parmi ces 1200 cas, 177 étaient des cas d'homophobie par la famille et 77% des adolescents interrogés se déclarent rejetés par leur famille. Cette homophobie, elle peut avoir plusieurs raisons. D'abord par des raisons religieuses. En effet, la plupart des religions interdisent l'homosexualité. Et dans les familles religieuses les plus extrêmes, ils peuvent décider de devoir soigner leur enfant, car il y a cette notion que l'homosexualité est une maladie. Ce qui est complètement faux, bien sûr. Par exemple, depuis les années 1950, dans les familles catholiques les plus extrêmes, les parents emmenaient leurs enfants faire des thérapies de conversion par l'Église. C'était des espèces d'exorcistes effroyables où on essayait d'extirper le mal, entre guillemets, du corps de l'enfant. Ces thérapies de conversion sont aujourd'hui interdites, mais se poursuivent malheureusement dans la clandestinité. L'homophobie familiale n'est pas forcément causée par de la méchanceté pure. Elle peut aussi être causée par de l'ignorance, de la naïveté ou des clichés. Par exemple, on oublie facilement que les termes « tapette » ou « tarlouse » sont des insultes qui font mal. Il y a aussi la notion de folle ou d'efféminée qui est très présente dans l'imaginaire collectif et qui pourtant n'est pas forcément une réalité. Et puis, les parents peuvent parfois avoir des propos un peu maladroits, des blagues pas très drôles sur les homosexuels ou poser des questions comme « qui fait la fille ou le garçon ?» Tout ça, c'est des petites piques qui peuvent empêcher l'enfant de faire son coming out à ses parents. Il y a aussi des soucis dans la relation père-fils. Pour certains pères, l'homosexualité, c'est renier sa virilité et sa masculinité, et donc tout le modèle que le père a construit pour son fils. Et bien évidemment, les enfants ont peur de parler de leur homosexualité à leurs parents, par peur du rejet ou de violence. On a lu des témoignages qui parlent de violence physique, également de violence orale avec des insultes comme « sale pédé » et un autre vocabulaire fleuri qu'on connaît bien. D'enfants qui sont complètement bloqués chez eux, interdiction de sortir, pas de contact avec l'extérieur pour éviter qu'ils voient leurs petits copains ou petites copines. Il y a aussi malheureusement beaucoup d'enfants qui sont jetés en dehors de chez eux avec une dernière phrase comme « tu ne fais plus partie de ma famille, tu n'es plus mon fils, tu n'es plus ma fille ». Et c'est terrible comme souffrance, c'est un vrai dilemme, parce que à la fois ce sont des personnes que tu connais depuis ta naissance, qui t'ont élevé et qui te disent des choses abominables qui te font du mal.
Mais dans ce cas, est-ce qu'il existe des associations ou des groupes pour aider les jeunes qui n'ont pas l'occasion de parler de ça à leurs parents ?
Tout à fait, il y a notamment l'association Le Refuge qui fait du soutien social aux jeunes LGBT de 14 à 25 ans. Ils font de la sensibilisation et également ils s'occupent de trouver un hébergement pour les jeunes qui sont jetés à la rue. Il y a des centres d'hébergement dans plusieurs grandes villes de France comme Paris, Toulouse, Lille, Marseille, etc. Et ils ont également une ligne d'écoute 7 jours sur 7 au 06 31 59 69 50. Donc, si vous êtes un jeune homosexuel ou transgenre qui est victime d'homophobie ou de transphobie par sa famille, vous pouvez contacter l'association Le Refuge et vous serez aidé. Vous n'êtes pas tout seul.
Merci. Ce sujet est parfois dur à aborder en famille dû au rejet fréquent de la famille. Valentine, souvent les ados ont plus de mal à communiquer leurs émotions à leurs parents. Tu peux nous en dire plus ?
Alors, la communication peut être considérée comme tabou dans certaines familles. Les enfants n'osent pas parler de leurs émotions à leurs parents. Cela se produit le plus souvent lors de leur adolescence, lorsque nos sentiments ont tendance à le plus ressortir.
Pourquoi certains enfants n'osent-ils pas parler de leurs émotions ou de ce qu'ils pensent ?
Ça peut dépendre de la personnalité de l'enfant. Certains n'aiment pas afficher leurs émotions par honte, peur ou autre, de la manière dont ils ont grandi avec leurs parents. Certains parents peuvent être stricts, ce qui peut mener à une relation parent-enfant d'insécurité ou d'inconfiance, rendant des sujets à la base normaux tabous. Mais il y a aussi des familles dans lesquelles les parents eux-mêmes ne vont pas bien. Ce qui va pousser l'enfant à se renfermer sur lui-même pour, selon lui, ne pas rajouter davantage de poids à ses parents.
Mais si les enfants ne peuvent pas se confier à leurs parents, ils peuvent le faire avec d'autres personnes, non ?
Oui, les enfants peuvent cependant se confier à leurs amis ou à un psychologue, ce qui peut aider la plupart à se libérer de ce qu'ils gardent pour eux.
La communication n'est pas facile pour tout le monde. C'est parfois tabou, et notamment lorsqu'un membre de la famille vous l'impose, lors de l'inceste notamment, où l'agresseur ne voudra pas que sa victime communique du viol ou des attouchements qu'il a subis, un sujet qu'on ne peut pas cacher sans dommages graves sur la santé plus tard. Aiden, tu peux développer ?
Bonjour. Déjà, c'est quoi l'inceste ? C'est une agression sexuelle ou viol entre personnes de la même famille. C'est des attouchements sur les parties intimes, des actes de masturbation, d'exhibitionnisme ou encore des baisers forcés. Les victimes d'inceste sont plus souvent des enfants et encore plus souvent de sexe féminin, alors que les agresseurs sont plus souvent de sexe masculin et des adultes, même si l'inceste fait par mineur sur mineur existe. Il y a plusieurs types d'inceste, l'inceste qui est considéré comme un viol et l'inceste considéré comme une agression sexuelle. La loi interdit des relations d'ordre sexuel avec un membre de sa famille. La question du consentement de l'enfant ou de l'adolescent ne se pose pas dans les affaires d'inceste en dessous de 18 ans. Le consentement ne peut jamais être donné. L'enfant a la possibilité de porter plainte jusqu'à 30 ans après sa majorité en cas de viol et jusqu'à 20 ans après la majorité en cas d'agression sexuelle. Les personnes ayant été victimes d'inceste peuvent présenter des troubles du sommeil et de l'alimentation à court terme, des désordres psychosomatiques, des phobies, une mémoire défaillante, de la dépression et autres. Ces troubles affectent les domaines somatiques, psychologiques, cognitifs, comportementaux et relationnels. Le post-traumatic stress disorder constitue une traumatisation plus sévère qui nécessite un traitement. L'affaire Olivier Duhamel, accusé d'inceste sur son beau-fils alors qu'il avait 13 ans, a déclenché sur Twitter une vague de témoignages de victimes d'agressions sexuelles sous le hashtag MeTooInceste. Seulement 13% des victimes d'inceste ont obtenu une condamnation de leur agresseur. J'ai lu un témoignage où, malgré son agression, la victime a ressenti du plaisir.
Ça veut dire qu'on peut ressentir du plaisir lors d'un viol ?
Oui, on peut ressentir du plaisir lors d'un viol ou d'une agression sexuelle, aussi surprenant que ça peut paraître. C'est possible que le corps réagisse instinctivement par du plaisir sexuel, mais non parfois un orgasme. Même si le corps réagit à ses touchés sexuels, cela ne signifie pas que la victime y consent et qu'ils sont désirés. Les victimes qui ont ressenti ce plaisir honteux en viennent souvent à croire que c'est que parce qu'elles ont ressenti du plaisir, elles ont participé et consenti en quelque sorte par la réaction de leur corps à la, entre guillemets, relation sexuelle. Ainsi, elles croient que ce ne peut pas être considéré comme une agression sexuelle, alors que c'est faux. Mais il faut que la victime en soit consciente. Si on dit non, c'est non, plaisir ou pas plaisir. Les victimes n'ont pas à culpabiliser car ce n'est pas de votre faute. Osez en parler anonymement ou pas et portez plainte. Allô Enfants sans danger au 119 est un numéro gratuit et anonyme pour les violences subies par les enfants.
L'inceste est un sujet très grave qui peut amener à de nombreux troubles et complexes dans le futur de la victime. En parlant de complexes, Shana va nous en parler, quoique de complexes bien moins graves.
Le complexe est un attrait de nous, qu'il soit physique ou mental, peu importe, que l'on n'arrive pas à accepter et qu'on qualifie d'imperfection. Ce genre de situation, ça arrive à tout le monde à une période de sa vie, et faut savoir que c'est tout à fait normal. On veut peut-être pas en parler, on le cache, on le maquille parce qu'on a honte ou on veut pas que les autres nous jugent ou se moquent de nous. Mais s'il y a quelqu'un qui peut te soutenir parce qu'on ne sera jamais tout seul, sache que les personnes que tu qualifies de membres de ta famille seront toujours avec toi et que ces personnes sont censées t'aimer telle que tu es et n'auront jamais à te juger.
Tu as déjà vécu ça, toi ?
Oui, bien sûr, quand j'étais petite, on se moquait souvent de moi à l'école parce que j'avais les dents en avant, on m'appelait le castor ou le lapin. Mais il y a une personne qui m'a aidée à surmonter mon complexe, parce que ça fait partie de la vie, l'acceptation de soi, c'est une véritable épreuve. Donc c'est une amie. Elle ne m'a jamais jugée pour quoi que ce soit et m'a toujours soutenue et appréciée pour ce que j'étais. Je crois que c'était comme une sœur pour moi. Elle m'a permis de devenir plus forte et d'être capable de m'aimer comme j'étais sans plus jamais me soucier de ce que les autres pensent. Aujourd'hui, je sais que les remarques des autres ne m'atteignent plus.
Le complexe est fréquent chez les jeunes et peut continuer plus tard. Pour le surmonter, on peut s'entourer de bonnes personnes ou de spécialistes qui pourront nous aider. Voilà, notre émission est finie. Merci de nous avoir écoutés. On remercie Léni à la régie et les filles qui sont venues pour animer cette émission. Bonne journée et à bientôt.
Bonjour à tous, nous sommes sur Radio Campus. Il est 15h58. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette émission du sport chez les jeunes. Dans une première partie, nous accueillerons Noam, qui est joueur de volleyball. Il sera interviewé par Mathias. Ensuite, je débattrai avec mon invité Léo sur une question commune. Est-ce que les parents doivent obliger leurs enfants à faire du sport ?
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Bonjour à vous, vous allez bien ?
Bien et vous ?
Ça va, merci.
Bonjour à Noam.
Bonjour.
Tu as bien 16 ans et tu pratiques un sport.
Oui, je pratique.
Tu pratiques quoi comme sport ?
Je pratique du volleyball.
Ok. Quel est le nom de ton club ?
Courbevoie Sport.
Depuis combien de temps tu fais ce sport ?
Je fais ce sport depuis maintenant 3 ans.
Comment tu as commencé ce sport ?
J'ai commencé ce sport car j'étais aux portes ouvertes à Courbevoie. Et la présidente du club a vu que j'étais assez grand pour mon âge, du coup elle m'a proposé d'aller faire un test et j'ai accroché.
Et donc pourquoi tu as continué ce sport ? Et tu l'as pas arrêté?
J'ai continué ce sport car ça me permettait de penser à autre chose, de me défouler. Et j'avais aussi un bon niveau de base. Donc ça me poussait à vouloir performer de jour en jour.
Ok. À quel niveau tu es là?
Donc là, je joue avec ma catégorie. Donc 15-18 ans. Et je suis sur classe avec les seniors en pré-nat. Donc avant la nationale.
Ok. D'après toi, tu as un niveau en pro? En joueur pro?
Potentiellement, oui. Après, il faut que je grandisse encore un peu et pourquoi pas.
Et surtout, tu veux devenir pro ou pas plus tard ?
J'ai d'autres choses avant que j'aimerais faire, mais pourquoi pas, ouais.
Quel est ton poste en jeu ?
Je joue pointu, donc je suis la personne qui attaque. Je sers qu'à ça. Okay. Ce match, voilà.
Tu t'es déjà fait repérer ou pas ?
Oui, plusieurs fois. L'année dernière, j'ai fait un stage au CRE, donc c'est le centre régional d'entraînement. C'était à Châtenay-Malabry. Du coup, j'ai fait les volleyades aussi. C'est un tournoi dans toute la France. Donc, de chaque département. C'est les 40 meilleurs joueurs de chaque département. De chaque région, pardon. Et sinon, il y a plusieurs clubs qui m'ont repéré, qui voulaient que j'aille avec eux. Mais j'ai refusé. Je reste à Courbevoie.
Ah, vous aimez votre club, hein, vous ?
Oui.
Tu t'es déjà blessé ou pas ?
Oui, plusieurs fois.
Où ?
J'ai fait 2 fois la cheville cette année, 2 fois l'épaule, 1 fois le pouce. Et l'année dernière, j'ai eu une blessure durant toute l'année qui m'a pénalisé. C'était à l'épaule gauche, donc mon épaule de frappe, donc c'était très compliqué.
Mais ça doit être compliqué après toutes ces blessures de reprendre le rythme des entraînements.
Et c'est vrai que c'est compliqué, mais avec 2-3 semaines d'entraînement, on reprend tranquillement.
En parlant de rythme, tu as combien d'entraînements par semaine ?
J'ai 3 entraînements par semaine. De 4 heures, donc c'est de 18h à 20h, à 22h30.
Même pendant les vacances ?
Oui, pendant les vacances aussi, cette fois c'est tous les jours, toute la semaine.
Combien de temps par jour ?
De 3 heures.
Ok, t'es toujours au lycée ?
Oui, bien sûr.
En quelle classe ?
Je suis en seconde générale, à Albert Camus.
Et l'année prochaine, tu vas aller dans quoi?
En STMG.
Pourquoi tu veux pas aller en sport études, par exemple?
J'attends une réponse, là. Il m'a envoyé un mail, donc j'ai envoyé mes dossiers, etc. Et j'attends une réponse.
Ok, bah merci Noam.
Merci à vous, au revoir.
Au revoir.
Alors, merci à vous deux. Maintenant, place à la musique avec Je la connais de SCH.
Ouais, je la connais. Non, je la connais. Ouais, je la connais.
J'accueille maintenant mon invité Léo. Il va débattre avec moi autour d'une question. Est-ce que les parents doivent obliger leurs enfants à faire du sport? Bonjour Léo.
Bonjour Baptiste.
Est-ce que tu veux commencer à prendre la parole?
Tout d'abord, je pense que non. Sincèrement, je pense que si mon enfant il veut faire du sport, bah qu'il le fasse, je vais pas lui interdire. En revanche, s'il veut pas en faire, bah c'est pas, je vais pas le forcer à faire du sport. Pour moi, c'est évident.
Oui, mais si votre enfant n'est pas autonome, il ne prendra pas l'initiative de faire du sport de lui-même.
Écoutez, s'il veut faire du sport, en théorie, il est censé s'engager et c'est me dire comme quoi il veut faire du sport. Sinon, pour moi, il n'est pas assez... S'il veut faire du sport, qu'il me le dise. Sinon, pour moi, ça veut dire qu'il ne veut pas faire de sport.
D'accord, mais un enfant faisant du sport peut plus facilement trouver des amis.
Écoutez, c'est pas le seul moyen de se faire des amis. Par exemple, dans son établissement scolaire, comme par exemple à l'école, il peut trouver plein de camarades qui ont des mêmes... Même HQ, lui, même s'il sort au parc, il peut trouver des enfants du même âge, plein d'intérêts en commun. Il peut avoir beaucoup, beaucoup d'amis, pas forcément en passant par le sport. Et puis même, si on parle de prix, par exemple. Si mon enfant ne veut pas faire de sport et que je lui force, par exemple. Si en plus je paye alors qu'il ne veut pas faire de sport, je trouve que ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que je force mon enfant à faire du sport et en plus je paye alors que... il va pas forcément faire du sport.
Oui, mais le sport en club, il est encadré. Hein. Il y a toute une discipline à avoir. Les équipements dans le club sont là pour éveiller les facultés des adhérents au maximum.
Écoutez, s'il veut pas faire de sport, qu'il y ait du matériel ou un encadrement en plus, ça va pas changer grand-chose. S'il veut pas faire de sport, c'est pas ça qui va l'encourager à s'intégrer dans ce sport-là. C'est pas quelque chose qui va changer.
Je peux comprendre. Mais votre enfant peut développer des problèmes importants de santé, si l'on suit votre avis.
Après, on peut corriger ça, par exemple, avec une bonne alimentation, hein. Mais aussi en prenant des précautions, hein. Faut faire attention, c'est sûr. Après, c'est un cas très rare, mais qui reste possible. Et puis, le sport est resté hebdomadaire dans un cas scolaire, hein. Toutes les semaines, ils peuvent faire, ils font du sport après, pour maintenir leurs conditions physiques et surtout leur santé.
À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
Bon, je pense maintenant que le débat est clos. Sur ce, merci d'avoir écouté cette émission et merci à toute l'équipe qui ont participé à la création de cette émission. Noam, d'ailleurs, on lui souhaite bonne chance pour la suite. Mathias, Léo, Koum qui était à la régie, Baptiste, Samy et Wissam. D'ailleurs, Samy et Wissam qui n'étaient pas là aujourd'hui, mais qui ont participé à l'écriture de cette émission. Merci pour votre écoute.
Au revoir.
Bonjour et bienvenue sur Radio Campus Paris. Il est actuellement 16h15.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Aujourd'hui, nous accueillons 5 invités dans notre émission Parlons Rencontre. En lien avec le spectacle Mes parents de Mohamed El Khatib, nos invités vont aborder le sujet de la famille et des proches, tout d'abord avec une chronique où Manon et Oriane vont nous parler des rencontres de leurs parents. Ensuite, on enchaînera avec un échange entre Oriane, Esther, Olympe, Manon et Jeanne autour de l'influence de leurs rencontres.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Du coup, Manon et Oriane, vous pourriez nous parler de vos parents ?
Alors oui, moi personnellement, mes parents se sont rencontrés sur un site de rencontre. Comme beaucoup de gens, je pense, maintenant, mais bon, ça fait quand même 18 ans maintenant qu'ils sont ensemble.
Mes parents se sont rencontrés en France, bien que ma mère soit née en Afrique, au Bénin, dans la ville de Porto Novo, la capitale politique. À vrai dire, je ne sais pas grand-chose sur mes parents et de leur vie avant ma naissance. Au-delà de ça, ce qui m'étonne le plus, c'est la distance. Quelle était la probabilité pour que deux personnes issues de deux pays différents, parlant des langues différentes et ayant une culture différente, puissent se rencontrer ? Comme quoi, on ne peut jamais savoir ce qui va nous arriver. Bref, après 16 ans et demi de vie commune, mes parents ont eu le temps de, comment dire, s'influencer mutuellement.
Moi, je crois que ma mère trouvait mon père moche sur sa photo de profil au début, parce qu'il avait une barbe. Mais bon, mon père a insisté pour lui parler. Il lui a offert une rose jaune. Elle a insisté sur ce détail. Et elle l'avait bien caché dans sa chambre, mais ses parents l'ont trouvé, je crois. Et après, ils ont eu leur premier rendez-vous à un spectacle de patinage artistique, alors que je vois très mal mon père aller voir un truc comme ça. Mais bon, je pense qu'il a fait ça pour faire plaisir à ma mère. Du coup, ça nous montre que tous les types de rencontres, même sur les réseaux ou les sites de rencontres, peuvent finir sur quelque chose de sérieux.
Jolie tentative du père. Le mien, comme tous les matins d'hiver, avant de partir au travail, avale une mixture préparée avec amour par ma tendre mère. Mais laissez-moi vous dire de quoi est composé ce ragoûtant mélange, censé booster son système immunitaire et le préparer à affronter les virus et les maladies de l'hiver. Alors, une bonne dose d'aloès, aloe vera, coupée en tranches, plante miraculeuse à laquelle on attribue des vertus thérapeutiques. Elle y ajoute diverses plantes de sa terre natale, achetées chez une charmante dame qui ressemble plus à une sorcière du 18e qu'à une herboriste, le fond d'une vieille liqueur condamnée à rester dans le placard sous l'évier depuis nombre d'années, et pour terminer l'œuvre à laquelle elle a consacré 30 minutes de sa matinée, du gingembre et une gousse d'ail. Croyez-le ou pas, il a bu. Et je suis toujours étonnée qu'il ait réussi à garder les yeux en face des trous. Ben mon vieux, on peut dire qu'après ça, on est paré à affronter n'importe quoi. C'est pour vous dire, il est des rencontres qui vous changent un homme.
À la place de son père, j'aurais vraiment pas bu. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous deux. C'était de très bonnes anecdotes. On vous retrouve pour l'échange après une courte pause musicale.
It's hard to carry after dark. You're to blame for what we could have been, cause look at what we are. Your friends are scared to tell you you went too far. Funny that it's always been all about you from the start. I met someone new last night and we kicked it. And I'm going back there tonight. And you know what's on my mind this time. Going back there tonight, and you know what's on my mind. So,
if you had my love and I gave you all my trust, would you come back? And if somehow you knew that your love would be a dream, would you lie to me? That's just how I feel when I'm around you, shawty.
Last night we didn't say it, but girl, we both thought it. Why second guess? I should've stayed. You say the word, I'm on the way. This shit feels like teenage fever. I'm not scared of it, she ain't either. Why second guess? I should've stayed. Cause you know it's on my mind, so.
Et on va directement enchaîner à l'échange autour des rencontres et comment elles nous influencent. On va donc écouter Esther et Manon, qui sont respectivement des psychologues et sociologues. Elles auront donc un point de vue qui sera plutôt scientifique. Et ensuite, on laissera la parole aux trois étudiantes, Auréane, Olympe et Jeanne. Donc bonjour Esther. Pour vous, en quoi les rencontres impactent la vie de chacun ?
Bonjour. Alors c'est très simple. En fait, pour ton développement donc de l'enfant à la mort, les rencontres que tu vas avoir, elles vont t'impacter, t'influencer, que ce soient les bonnes et les mauvaises. C'est-à-dire qu'on n'existe pas sans l'autre. Ce qui est à la base de l'être humain, c'est qu'il a besoin d'être en relation avec l'autre. Après, ce qui est important, c'est un peu de pouvoir faire le tri entre les personnes qui vont avoir un bon impact sur nous et celles qui peuvent être toxiques. Donc, à la base, la première relation qu'on a, c'est avec nos parents ou la personne qui s'occupe de nous. Et à partir de là, tout va se dérouler en fonction de la qualité de la relation que nous avons eue avec eux. Par exemple, si tu as une mère un peu toxique, tu vas avoir tendance dans ta vie à aller de nouveau vers des gens toxiques qui ne te feront pas du bien. Parce qu'au départ, tu as pris un mode de relation et tu vas toujours générer la même chose. Et du coup, au début, donc, tu vis dans ce petit monde avec ton papa, ta maman, comme seule référence. Puis tu grandis et là, tu ouvres ton champ relationnel avec tes amis, tes connaissances qui vont t'impacter et te permettre d'ouvrir ton esprit. Et puis tu vas te rendre compte qu'intuitivement, tu vas te comporter différemment avec chaque personne et donc t'adapter.
Alors oui, je suis complètement d'accord avec Esther. Les rencontres sont très importantes dans notre vie, dans la sociologie, notamment parce qu'on étudie beaucoup des interactions sociales et le comportement des gens en société. Bon, c'est sûr, les rencontres influencent notre vie. Positivement ou négativement, ça va dépendre des situations et des personnes qu'on rencontre. Il y a les lieux ou les moyens qui peuvent aussi influencer les rencontres qu'on fait. Souvent, on rencontre nos amis pendant les études ou au travail, ou par exemple, il y a des lieux plus pour les rencontres amoureuses, comme les bars. On sait qu'environ 25% des couples se rencontrent via leurs amis, 24% sur les sites de rencontres, 14% au travail ou pendant les études, et 12% dans des bars et des fêtes. Donc de plus en plus de gens se rencontrent sur Internet. Et donc ça permet une mixité sociale des gens qu'on rencontre qui peuvent venir d'autres pays ou de milieux sociaux différents. En fait, ça donne lieu à des rencontres inattendues. On peut voir aussi que le scénario de rencontre habituel change avec les applications en ligne. Les gens se concentrent d'abord sur l'écrit et la discussion avec une personne plutôt que l'apparence physique au premier abord. Donc finalement, ça modifie notre jugement sur cette personne. Finalement, ce type de rencontre peut influencer positivement notre vie en rencontrant des gens d'autres horizons et en modifiant notre jugement sur eux.
Merci beaucoup à vous deux, c'était super intéressant. Donc on vient de prêter attention au point de vue de deux professionnels et on verra celui de trois jeunes étudiantes après une pause musique. Thank you. C'était Closer des nuages et on enchaîne tout de suite avec Olympe, Auréane et Jeanne. Olympe, quel est votre avis sur l'impact des relations dans la vie ?
Du point de vue de l'amitié, on peut être influencé ou impacté, ce qui peut être bénéfique ou non, comme par exemple dans l'attitude, les mimiques ou la manière de parler, ou encore dans nos choix comme les études ou juste les sorties qu'on fait. Quand on rencontre quelqu'un, on va être amené à apprendre de cette personne. Et je pense que lorsqu'on connaît quelqu'un, on fait plusieurs rencontres en découvrant différentes facettes de sa personnalité. On continue d'apprendre d'elle. Et je voulais aussi parler des rencontres brèves qu'on fait dans la rue. Un sourire, un regard ou un mot qui peut paraître assez anodin, mais qui peut nous faire sourire et refaire notre journée. Donc même les plus petites rencontres peuvent nous impacter ou influencer.
Ouais, je suis assez d'accord avec ce que dit Olympe. Pour parler de moi, dans ma vie, et même dans un cas assez général, je pense que les personnes que nous rencontrons nous influencent, d'une manière ou d'une autre. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes avec lesquelles je me suis toujours entendue et qui pour la plupart me comprenaient. Mais honnêtement, les rencontres dont on se souvient le plus sont celles qui nous tirent vers le haut, celles qui nous font ressortir, celles qui font ressortir le meilleur de nous-mêmes. Ou celles qui nous influencent du mauvais côté et nous font faire des choses qu'on n'a pas toujours vraiment envie de faire. Personnellement, j'ai dû faire la connaissance de seulement 2 ou 3 personnes m'ayant réellement poussé à donner le meilleur de moi-même. Ça paraît peut-être peu, mais quand on y pense, rares sont les rencontres dont nous pouvons tirer profit. Je pense que la qualité qu'il faut avoir, lorsque nous voulons rencontrer des gens, au-dessus du fait d'être empathique, de ne pas juger, il faut avoir une certaine force de caractère et d'esprit pour ne pas se laisser influencer par les gens qui nous entourent. Et si l'on regarde dans notre entourage, peu sont ceux qui n'ont jamais été influencés ou même totalement changés, transformés, que ce soit en bien ou en mal, par des personnes qu'ils connaissent. Le mieux que l'on puisse retenir des mauvaises rencontres, c'est d'en tirer des leçons. Elles nous servent d'exemple, contribuent à notre apprentissage et à notre développement en société.
Merci beaucoup Auréane. Et concernant les relations familiales, Jeanne ?
Oui, donc il y a aussi l'influence des parents. Par exemple, à force d'être tous les jours avec mes parents, j'ai pris certaines de leurs manières, comme par exemple tout planifier en avance comme le fait ma mère, ou être maniaque comme mon père. Je peux aussi dire que grâce à mes parents, j'ai une certaine ouverture d'esprit. Je peux parler de tous les sujets avec eux, alors que dans d'autres familles, cela n'est pas le cas.
Un grand merci à nos invités et à vous tous qui nous avez écoutés, et à une prochaine fois sur Radio Campus Paris.
Bonjour à tous et à toutes, il est 16h31, ici la chaîne Radio Campus Paris et bienvenue dans l'émission Un jour une pièce.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Clément du lycée Albert Camus en seconde 2 et aujourd'hui nous allons parler de la pièce de théâtre Mes parents de Mohamed El-Khalib et plus particulièrement de l'humour dans cette pièce. Pour répondre et développer ce sujet, Noam interviendra pour raconter sa chronique sur l'humour en général et en parlant des différents aspects de l'humour, mais surtout, qu'est-ce l'humour ? Et nous finirons par un débat qui traitera de la question suivante, comment ressort l'humour dans cette pièce ? Avec comme invité Lilou, suivi de Mathieu et Léo. Ils nous feront part de leurs avis, qui divergeront peut-être, mais nous en dirons sûrement une réponse. Enfin bref, chers invités, je vous laisse vous manifester lors de cette présentation du plateau.
Bonjour.
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 C'est tout pour les présentations, j'espère que vous êtes prêts car ça commence maintenant.
À vous les studios. C'est vous qui faites l'émission.
Noam, la thèse de votre chronique, c'est bien l'humour.
Effectivement.
Eh bien, je vous laisse déballer ce que vous avez à raconter.
Déjà, merci de m'accorder ce temps aujourd'hui pour parler de l'humour. Hein. Un sujet central de cette émission, mais qui reste tout de même à définir, mais que cela soit assez évident pour la majorité des gens. L'humour, du latin humor, signifie à l'origine les fluides corporels et relié à la théorie des humeurs. Cette notion a assez disparu, mais l'humour est très... lié à la santé toujours, des études affirment que le rire est bon pour la santé mentale. Au fur et à mesure, en France, on parle d'hommes d'humeur et d'humour quand ils sont joyeux. En Angleterre, on observe la même évolution, mais avec un humour plus réfléchi et sous-entendu, on parle encore aujourd'hui d'humour britannique. L'humour aujourd'hui a plusieurs formes et se retrouve dans de nombreux domaines. Hein. Cette forme d'esprit, on utilise une expression ou le langage dans un objectif de faire rire. Il peut être utilisé à titre éducatif ou pour dénoncer comme sans aucune raison.
Je vois donc, vous parlez de l'humour d'une façon de comment on pourrait la définir, mais est-ce qu'il y a d'autres façons de la définir ?
Eh bien, la définition de l'humour change selon les cultures, les régions et les personnes. L'humour est plus ou moins accepté, notamment une de ses formes les plus contestées, l'humour noir. Cet humour cible des sujets sensibles et tabous, s'appuyant sur des éléments désagréables en les tournant à la dérive, pouvant choquer ou faire rire.
Effectivement, c'est ce que moi, personnellement, je n'approuve pas.
Il existe d'autres formes d'humour comme l'humour absurde, pince sans rire, l'ironie, le sarcasme ou l'autodérision. D'ailleurs, cette subjectivité peut instaurer une gêne et un mécontentement, encore un accord et un fou rire chez les personnes.
Effectivement, oui, l'humour est bel et bien subjectif. Et est-ce que dans ce cas-là, ce phénomène peut s'appliquer à la pièce Mes parents ? Car personnellement, ayant plutôt bien aimé la pièce et même l'humour, est-ce que cela peut être le contraire pour une autre personne ?
Totalement, souvent dans les publics, on trouve des avis très divers.
Très bien, et bah, dans ce cas-là, si on demandait l'avis à nos chers invités suivants, Lilou, Mathieu et Léo ?
Eh bien, dans cette pièce de Mohamed El-Khatib, Mes parents, on écoute les anecdotes des enfants qui parlent de leurs parents. Et dans la fin de la première scène, on va dire, les enfants parlent de la profession de leurs parents. Il y a du coup un enfant qui dit que son père est un aviateur. Et les avions en papier sont jetés sur la scène, le public. Et donc, ça nous propose une sorte de transition vers les autres scènes de la pièce. Pardon.
C'est assez spectaculaire, avec tous ces avions qui déballent comme ça par an.
Oui, c'est ça, c'est assez étrange, en fait, je trouve, comme transition. Mais elle est bien trouvée, même si on trouvait ça long au bout d'un moment, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'avions en papier jetés.
Ouais, c'était un peu lourd. Hein.
Oui, justement, je voudrais donner mon avis. Je trouvais aussi que cette scène était assez longue, mais je trouvais que la transition était bien réussie et que c'était en effet spectaculaire.
Moi, je suis plutôt d'accord avec Mathieu. La scène est vraiment assez longue. Je l'ai même trouvée assez embêtante à la fin, mais je la trouve très complète, donc c'est quand même une scène correcte.
Je voudrais aussi vous parler d'une autre scène. C'est la scène où l'enfant crie papa. Donc, on se retrouve dans le noir avec un adulte, un comédien, qui crie papa, 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 incessamment.
En boucle, hein, voilà. Jusqu'à même péter nos oreilles.
Exactement. Justement, j'ai trouvé que cette scène était un peu trop répétitive, le comique de répétition était trop exagéré, et ça m'a déplu.
Ouais, un peu comme un enfant qui crie à son papa. Hein. On n'imagine pas un peu comment le père doit réagir face à ça. Donc Lilou, qu'avez-vous à dire sur ce sujet ?
Eh bien, je suis, contrairement à Mathieu, je trouve que cette scène est bien réussie parce qu'on comprend que l'enfant veut appeler son père et veut l'interpeller. Donc les papas sont de plus en plus forts et de plus en plus appuyés sur les syllabes.
Moi, je suis plutôt d'accord avec Mathieu parce que cette scène, elle est aussi très longue. J'ai même trouvé un peu désagréable à voir et à écouter. Et même un peu gênante par moment. D'ailleurs, pour continuer sur ce thème, il y a cette scène où une des comédiennes fait une visio avec sa mère. C'est une scène que j'ai vraiment trouvée drôle et très intéressante. C'est d'ailleurs une des scènes que j'ai préférées. Cette scène est... J'ai trouvé vraiment très originale et passionnante même.
Eh bien, contrairement à toi, Léo, j'ai trouvé que puisque la scène était réaliste, on s'identifiait vraiment à la mère et à l'enfant, eh bien, elle n'était pas vraiment drôle. C'était plus pour nous ramener dans la pièce pour qu'on soit plus concentré ou juste plus intéressé. Et donc, j'ai pas trouvé ça spécialement intéressant, je veux dire, dans le fait que on voulait pas vraiment trouver ça drôle, mais
pas
plus
ce côté romancé ou qu'on n'a pas l'habitude de voir. Quoi.
C'est ça.
Justement, moi je serais plutôt du côté de Lilou. Je trouve que cette scène n'était pas trop comique. Elle était plus documentaire, comme c'est un théâtre documentaire. Enfin, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. J'ai enchaîné tout de suite avec la scène des photos des parents mariés. Donc, dans cette scène. les comédiens présents sur la scène ont montré via un ordinateur et un projecteur sur le mur de la scène
des photos de leurs parents, voilà, durant leur mariage,
ainsi que l'anecdote de leur rencontre ou d'autres. Enfin, je trouvais que c'est des anecdotes, mais
c'était un peu redondant, disons-le.
Oui. Enfin, c'est plus quelque chose qu'on peut dire en dîner de famille, mais pas vraiment.
C'est plutôt privé dans ce cas-là.
Oui.
Moi, je suis plutôt d'accord avec Mathieu. C'est vrai que c'est plutôt des scènes qu'on va retrouver ensemble quand on sera avec notre famille, qu'on va pouvoir montrer comme ça. C'est pas vraiment quelque chose qui va faire rire ou
au grand public.
Oui. Voilà, c'est ça, exact.
Donc Lilou, qu'avez-vous à dire sur ce sujet ?
Moi, j'ai trouvé que c'était assez intéressant de savoir ce que les gens pouvaient trouver sur leur famille, donc les photos, etc. Et je trouvais que les anecdotes étaient souvent assez drôles et assez intéressantes pour être dites en public.
Bien, donc sur ce, on va procéder sur une petite pause. On se retrouve juste après.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Reprenons là où on en était, à toi Lilou.
Eh bien, du coup, je vais parler d'une autre scène qui s'est passée dans la pièce. C'était les enfants qui racontaient comment les parents étaient chez eux et comment ils agissaient. Et donc l'un des comédiens explique que sa mère préparait un verre de vitamine chaque matin avant de partir à l'école. Et qu'après, elle se mettait à danser la Zumba. Et lors de cette danse, le fils regardait sa mère. Et elle se mettait à twerker sur chaque...
Chaque fois
qu'il y avait le mot « vile », sauf que ce mot se répétait tout le temps.
Et même à un moment où ça crie carrément « vile » en boucle. C'est personnellement une scène qui m'a beaucoup marqué et beaucoup fait rire aussi.
C'est ça, elle était très très drôle parce que du coup, le fils regardait sa mère twerker sur la Zumba et sans arrêt, du coup, alors que normalement c'est censé pas durer longtemps, mais voilà.
C'est vrai que c'est assez drôle, hein, et un peu gênant pour certains peut-être.
Oui, justement, je voudrais revenir sur le fait que c'est drôle, mais pas forcément pour tout le monde et pas forcément pour des enfants.
C'est une scène qui est vraiment très comique, c'est vraiment une scène intéressante. Il y a aussi une scène qui m'a un peu déplu, c'est la scène où plusieurs amis se retrouvent sur Zoom. C'est un Zoom qui a été projeté sur le mur de la scène. C'est... Il parlait de plein de sujets différents, notamment de la sexualité de leurs parents et comment ils pouvaient
comment ils pouvaient réagir face à ça.
Exact, ouais. Mmh. Et je l'ai trouvé très original, voire un peu trop, même, mais aussi réaliste parce que c'est un dialogue qu'on pourrait faire avec nos parents aussi.
Oui, justement, je voudrais parler. Donc j'ai trouvé aussi que c'était drôle, mais ça peut pas convenir à tout le monde, puisque j'ai trouvé une scène un peu gênante et qui peut être problématique pour certaines personnes. Dans cette scène, une comédienne parlait en disant que les bruits de leurs parents le soir l'excitaient.
Oui, c'est ça, c'est le bruit que font les parents en faisant l'amour pouvait l'exciter. Et personnellement, j'ai trouvé cette scène assez drôle, même si ça pouvait choquer quelques personnes, surtout les jeunes, qui pouvaient, ne pas comprendre, et deux, trouver ça assez mal comme ça.
Bien, donc merci à vous pour vos avis et votre présentation, c'était très pertinent. Donc c'est donc ainsi que se termine notre émission. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés et d'être restés jusqu'ici. Je tiens quand même à remercier Lilou, Mathieu et Léo pour leur débat, et également Noam pour sa chronique, et enfin Amine qui supervise en tant que réalisateur. Et sur ce, au revoir.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.